93.9. Alors à toutes et à tous, un grand bouquet de roses accompagné de plein de sympathie, hein, de la part de moi, de la part d'Elie et de la part de la diva donc de Divergence, Julia. Alors comme d'habitude, donc Modesto Jamal au micro, hein. Et puis l'émission d'aujourd'hui est une émission consacrée, hein, à la grande soirée de solidarité qui se réalisera donc en musique et en slam avec la Palestine, qui se déroulera le dimanche 4 avril au Coton Club à partir de 22h. Mais tout d'abord, nous allons présenter donc nos invités, hein. Alors avec nous, Robert Kissous, qui est président de l'association France-Palestine 34, qui est aussi adhérent donc de l'Union juive française pour la paix. Hein. Il est l'un donc des organisateurs de cette manifestation et il aura donc le temps de nous exposer donc les objectifs de cette manifestation. Bonjour ou bonsoir, Robert.
Bonsoir.
Alors avec Robert, un habitué donc de Divergence, on l'a reçu donc plusieurs fois. Alors Kamal Mahmoud, docteur Kamal, comme on le surnomme dans donc le milieu militant, hein, pour la cause palestinienne. Il est secrétaire de il est président de l'association Montpellier-Palestine Solidarité Rurale et il est aussi secrétaire du comité de jumelage et de coopération Montpellier-Palestine. Bonsoir, Kamal.
Bonsoir.
Alors, avant de vous donner la parole, cher invité, hein, alors nous allons faire une petite pause musicale et on aura donc l'occasion de détailler d'abord parler de la journée de la Terre, hein, et c'est Kamal donc qui se chargera de ça, et puis parler donc de l'objectif et le pourquoi de cette manifestation de solidarité avec la Palestine. Alors en musique, nous vous présentons Reda Taliani, un chanteur de raï qui ne sera pas là le 4, il y aura donc le Chab Sahraoui, hein. Alors Reda Taliani qui nous interprétera un titre, El Moujalid Detou, emporté par la vague, à vous.
Dunia edition prison italiane. على السين وداروا في القبع سهل السرين حكيم حكيم والبحرية من شهور ونصون والنسور ويختا يا خالد وخالد وخالد بكارة
Toujours à Divergence FM 93.9, l'émission consacrée donc à la grande soirée qui sera organisée donc le 4 avril, dimanche 4 avril au Coton Club. Et maintenant, nous allons parler donc de la Journée de la Terre, événement très très important, dont une manifestation a été organisée le samedi dernier, donc place la Comédie. Alors avec nous donc l'un des le vétéran donc des Palestiniens ici à Montpellier. Je pense que si la Palestine était un État libre, je pense que tu mériterais peut-être le titre du consul de la Palestine à Montpellier. Alors voilà. Alors parle-nous d'abord de c'est quoi la Journée de la Terre, parce que beaucoup de gens ne savent pas peut-être ce que c'est, Et alors, le début, et puis donc la signification de la Journée de la Terre pour la Palestine.
Oui, merci et bonsoir. Il est vrai que les Palestiniens commémorent chaque année, le 30 mars de chaque année, la Journée de la Terre. C'est une référence à ce qui s'est passé plus de 30 ans en arrière, en 76, le 30 mars en 76, lorsque les Palestiniens d'Israël, ce sont des citoyens israéliens, ont manifesté en Galilée pour contre la confiscation de leurs terres agricoles par l'armée israélienne. C'était une manifestation pacifique dans plusieurs villages, notamment à Sakhnin, et l'armée israélienne a réagi, a riposté par la violence en tirant sur la foule, des manifestants. Donc il y avait des morts et des blessés. Et depuis ce jour-là, les Palestiniens d'Israël, comme les Palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza, et tous les autres Palestiniens, sont solidaires de tous ceux dont les terres sont confisquées par Israël, comme nous le voyons aujourd'hui en Cisjordanie aussi, et à Jérusalem-Est, y compris Jérusalem-Est. Et donc, cette occasion a été commémorée effectivement samedi dernier à Montpellier par un collectif d'associations militantes pour la Palestine. Et c'est pour rappeler à tout le monde, au monde entier et aux Nations Unies, à l'Europe, qui était à l'origine du drame palestinien, aux États-Unis qui soutiennent l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de Gaza depuis 42 ans, sans réagir contre ce qui se passe depuis cette occupation de confiscation de terres des Palestiniens et de harcèlement des Palestiniens et de la construction d'un mur autour de la Cisjordanie qui confisque encore d'autres parties de terres qui sont parmi les rares terres fertiles en Cisjordanie. C'est une journée que nous cherchons à commémorer chaque année pour rappeler à tout le monde que nous opposons à cette confiscation de la terre palestinienne.
Je sais que ça fait 2 ans, je pense, ou 3 ans, à l'initiative donc, de plusieurs associations de Montpellier. Il y avait donc un olivier hein, qui a été planté à l'esplanade. Alors qu'en est-il de cet olivier ? Est-ce qu'il y est toujours ? Est-ce que...
Oui, c'est exact. Nous avions demandé à toutes les villes de France, à toutes les mairies de France, de planter un olivier en commémorant la journée de la terre dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque commune possible. Et il est vrai que la mairie de Montpellier a réagi positivement à notre demande. L'association France-Palestine Solidarité a été la principale demanderesse de cette plantation d'olivier. Et Madame le maire de Montpellier avait accepté. Donc, c'est la mairie qui a pris en charge la plantation de l'olivier qui existe toujours avec une plaque, le droit, la paix par le droit, en mémoire de la Palestine. Elle existe toujours sur l'esplanade de la Comédie.
Voilà.
L'esplanade Charles de Gaulle.
Donc, après donc, la journée de la Terre, qui peut-être sera donc un espoir pour une solution possible, parce que actuellement, on ne voit pas la solution.
Il est vrai que l'avenir est sombre en ce qui concerne une solution positive de la question palestinienne. Dans la mesure où l'administration actuelle américaine cherche à mettre un peu de pression sur Israël pour qu'il cesse la colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem, y compris Jérusalem-Est, mais sans réel résultat pour le moment, vu l'intransigeance du gouvernement israélien de Netanyahou et l'intransigeance de colons israéliens, surtout qui font partie avec les partis extrémistes israéliens, et dans cette coalition gouvernementale israélienne, il me semble très difficile de voir que la fin de cette colonisation dans un avenir proche si la communauté internationale et les États-Unis notamment et l'Europe ne mettent pas le paquet, ne mettent pas la pression suffisamment pour obliger Israël à respecter les résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité qu'ils ont toujours bafoué depuis le début.
Kamel, moi j'ai envie de poser donc là, une dernière question à propos de... Est-ce que vous ne pensez pas que la question palestinienne elle a été sacrifiée d'abord par les gouvernants occidentaux, par les États-Unis, qui est le premier allié donc, des Israéliens. Quand les Américains veulent quelque chose, hein, ils le veulent. Donc, c'est pas... Et puis, les États arabes, comme l'Égypte, comme l'Arabie saoudite, est-ce que vous ne pensez pas que le salut des Palestiniens ne viendra que de la société civile mondiale ? Ce sont encore ces organisations de droits de l'homme qui rappellent encore le droit donc, des Palestiniens et que les politiques de tous bords, qu'ils soient arabes, non arabes, ont sacrifié, voire lâché la question palestinienne.
C'est vrai malheureusement. Et nous constatons de plus en plus l'inaction des pays occidentaux, de la communauté internationale, mais je dirais de l'Europe d'abord, parce que c'était l'Europe qui était à l'origine du drame palestinien. C'était l'Europe qui était à l'origine de la création d'Israël et de la chasse des Palestiniens de leurs terres en 1948. Et l'Angleterre, notamment, qui, avec sa déclaration Balfour et son mandat sur la Palestine depuis 1900, après la première guerre mondiale, en a profité pour consolider l'occupation des sionistes de grandes parties de la Palestine. Et depuis, c'était les autres pays occidentaux qui ont continué à soutenir Israël. La France, l'Europe en général, et les États-Unis après. La France jusqu'à 67 et les États-Unis après 67, depuis 67.
Est-ce qu'on peut rapidement rappeler, parce que ça, bon, vous êtes remonté donc loin un peu à l'histoire, maintenant il y a une solution. Hein. La solution, c'est la terre contre la paix et les frontières de 1967, avec la coexistence des deux peuples, palestiniens et israéliens, avec des frontières donc de 67 qui sont reconnues mondialement. Est-ce qu'on peut rappeler cette solution pour donner quand même un espoir aux auditeurs qui nous écoutent ?
C'est vrai, depuis les accords d'Oslo en septembre 93, et ces accords ont prévu l'échange de la terre contre la paix, autrement dit le retrait de l'armée israélienne des terres occupées en 67, en juin 67, et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et la bande de Gaza et le Golan en Syrie, contre la paix avec les Palestiniens et les autres pays arabes. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que les clauses de cet accord d'Oslo n'ont pas été respectées par les Israéliens. Les Palestiniens, comme le peuple israélien, étaient optimistes en disant « Tiens, ça y est, on va enfin avoir la paix et vivre en bon voisinage entre Palestiniens et Israéliens ». Mais le gouvernement israélien successif depuis 1993, depuis la signature des accords d'Oslo, ont accéléré la colonisation de la Cisjordanie. De telle sorte que entre 1993 et 2000, le nombre de colons a plus que doublé par rapport à la colonisation entre 67 et 93. Ce qui veut dire quand même une contradiction flagrante entre les buts recherchés qui étaient de trouver une solution correcte et juste à la question palestinienne en rendant les territoires occupés aux Palestiniens et contre la paix entre Israéliens et Palestiniens par la création d'un État palestinien sur la Cisjordanie et Gaza, et avec Jérusalem-Est comme capitale.
Eh ben voilà, donc on va rester donc sur cette touche d'espoir. Hein, et l'espoir fait vivre, Robert.
Oui, si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que dit Kamal. Et ce qu'on constate aujourd'hui, pour donner un peu plus d'espoir, mais aussi surtout pour dire aux citoyens qu'ils ont les moyens d'aider à la solution ou en tous les cas à ce que les choses avancent. Ils ont moyen d'aider. Comment ? Eh bien, l'isolement d'Israël sur la scène internationale s'accentue. De plus en plus, on voit des motions, des résolutions, des pressions qui se font. La réception de Netanyahou par Obama a été une humiliation totale pour Netanyahou. Dans la presse israélienne, c'est très net. Et ce que je veux dire par là, c'est que depuis les massacres commis par l'armée israélienne à Gaza, le mouvement d'opinion publique dans le monde entier a été absolument phénoménal. Et ceci a amené à des pressions sur tous les gouvernements, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Et la prise de conscience même aux États-Unis d'une masse croissante de la population. Par exemple, la dernière marche Freedom, marche pour Gaza, a été initiée par une organisation américaine, Code Pink. Tout ceci signifie quelque chose, c'est qu'il y a une montée dans l'opinion publique mondiale qui dit « assez, ça suffit, il y en a marre ». Et les citoyens en France aussi peuvent participer et aider à la montée de cette prise de conscience, faire pression sur les gouvernements pour que cette question soit résolue conformément au droit international.
Alors, pour rester donc dans les sanctions, je pense que tu parles des sanctions donc économiques. Et puis, ça nous ramène donc à l'affaire à Gresco. Donc, juste un petit mot donc sur.
Tout à fait.
Alors, et il y a une confusion totale parce que juste avant les élections, il y a eu des interventions. Comme quoi, grâce à l'installation de la société Agresco, les Palestiniens de la bande de Gaza peuvent vendre leurs produits agricoles. Ça a été dit par un grand président. Donc,
oui, je vois.
Voilà. Est-ce qu'on peut rectifier oui. Ou bien est-ce que vous avez de quoi rectifier ces...
Oui, si vous voulez, je disais que la pression de la communauté internationale, encore très largement insuffisante, puisqu'il n'y a pas de sanctions, comme le disait Kamal. Pour l'instant, il n'y a pas de sanctions jusqu'ici. Néanmoins, on voit cet isolement s'accroître. Et pour revenir à la question d'Agresco, ce qu'on reproche à Agresco, c'est d'exporter 60 à 70% des productions agricoles des colonies israéliennes de Cisjordanie. Donc c'est tout à fait considérable. Agresco est une société sans laquelle les colonies israéliennes ne pourraient pas prospérer. Donc il y a une complicité directe dans la colonisation de la part d'Agresco, qui, rappelons-le quand même, appartient à 50% à l'État israélien. Et je voudrais dire quand même que la Cour européenne de justice, dernièrement, a sanctionné une entreprise israélienne qui s'appelle Soda Club dans le fait que Soda Club a son usine dans la colonie de Mishor Adumim. Et c'est toutes ces compagnies, ces sociétés, toute cette trame économique et industrielle et agricole qui profitent de la colonisation, qu'on voudrait combattre. Et c'est par ce biais-là aussi que les citoyens peuvent aider, en s'opposant, en refusant d'acheter les produits des colonies israéliennes. Il y a actuellement des magasins, des chaînes de magasins, y compris à Montpellier, qui vendent le produit Soda Club, en marquant dessus « Made in Israel », alors que c'est faux. La Cour européenne de justice a épinglé Soda Club en disant « Non, il ne produit pas en Israël, il produit dans les colonies israéliennes ». Et des magasins, est-ce que je peux citer leur nom, des magasins qui le vendent, ce produit. Et on est intervenu, nous, à l'association France-Palestine Solidarité, auprès de la Direction générale de la concurrence et de la fraude, pour dire « Attention, voilà des magasins qui fraudent sur l'origine des produits. Ils marquent dessus « Made in Israel » alors que ce n'est pas fait en Israël. C'est fait en Palestine occupée. » Donc, voilà. Alors, on attend et j'espère qu'on aura une réponse positive de la Direction générale de la concurrence là-dessus.
Bon, on va rester donc sur ces explications, hein, et on va passer donc au titre de Shabba Maria, donc qui va animer la soirée donc de solidarité avec la Palestine le dimanche 4. Alors Shabba Maria qui va nous interpréter un titre Omri.
Aha. C'est du lourd. Shabba Maria, Hamid Bouchnar, écoute, c'est pour toi.
Yeah.
Divergence FM 93.9. Voilà, avec mes invités, Dr Kamal Mahmoud. Rebonsoir, Kamal.
Bonsoir.
Et Robert Kissous, président de l'association France-Palestine Solidarité. Et aussi Kamal, qui est président de l'association Montpellier-Palestine Solidarité Rurale. Et puis secrétaire du comité de jumelage et de coopération Montpellier-Palestine. Alors, on a l'habitude d'annoncer des manifestations pour défendre donc les droits donc des Palestiniens. Et là maintenant, c'est une soirée musicale en musique, en slam, en solidarité avec la Palestine. Et les fonds seront reversés pour un projet de coopération en Palestine. Alors, de quoi s'agit-il, Robert ?
Oui, alors, merci de nous donner la parole là-dessus, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Eh bien, racontant un peu l'historique pour montrer comment les choses se sont faites, le Cotton Club souhaitait faire une soirée de solidarité avec la Palestine. Le projet était là, ils ont essayé de le faire avancer. Et puis, le hasard des choses a fait que nous avons été mis en relation parce qu'ils cherchaient un partenaire de sorte à s'assurer que les bénéfices de la soirée puissent être utilisés pour une coopération en Palestine, pour un projet qui puisse aider les Palestiniens d'une manière ou d'une autre. Et donc, nous avons travaillé ensemble, et je les remercie de cet engagement de leur part. C'est une soirée qui n'est pas à proprement parler politique. C'est vraiment une soirée de solidarité dans l'esprit des responsables en question. C'est dans l'esprit de récolter des fonds et d'apporter une sensibilisation sur cette question de l'aide directe à un peuple qui est en détresse, qui est sous occupation, hein, militaire quand même. Ce n'est pas rien. Et ce, depuis très longtemps. Donc, l'idée a germé aussi chez nous de dire... Mais c'est important de toucher une audience différente de celle qu'on touche d'habitude. C'est important qu'on puisse rencontrer des gens qui sont sensibles à cette cause, mais qui ne sont pas forcément toujours joints pour venir à une manifestation ou quelque chose comme ça. Donc nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est toute cette opinion publique qui s'est levée pour protester, pour réclamer que justice soit faite. Nous voulons la contacter, nous voulons travailler avec eux, nous voulons trouver les moyens de faire des choses ensemble. Et ça, c'est un des moyens. C'est un des moyens, l'aspect culturel et musical, c'est quelque chose d'important, parce que ça touche aussi à la volonté des gens de, tout en vivant leur vie, de participer à une aide. Voilà. Donc, cette soirée sera donc animée par deux musiciens de raï particulièrement importants et connus, Cheb Sahraoui et Cheb Amaria. Il y aura aussi des DJ, DJ Mo, Aliyah, DJ Mess, DJ Amida, et des artistes montpelliérains, Myriam, qui va lire des poèmes du slam, et aussi le collectif Résistance avec Michel Mar, Mohamed, tu as la liste, Jamal sous les yeux.
Voilà, Mamdou Bari qui est guitariste de jazz, Pascal Labbé qui est vocaliste, chanteuse, Denis Fournier, hein, batteur de jazz, musique improvisée, et puis Demba Koulibaly qui est un percussionniste. Voilà, donc,
Il y aura de la musique pour différents goûts. Il y aura du raï, il y aura des poèmes et il y aura des jazzman et des DJ. Donc c'est quelque chose qui... cette soirée va démarrer le dimanche 4 avril. Pourquoi dimanche ? Ben, il faut rappeler que le lendemain, c'est lundi de Pâques. Donc ça permet de rester tard sans problème. Et cette soirée, donc... et je remercie vraiment les artistes parce que tous ces artistes qui viennent sont bénévoles. Ils ne touchent pas de cachet. Donc c'est vraiment un effort de leur part et nous les remercions de tout cœur. Et le bénéfice des recettes des entrées sera reversé à l'association France-Palestine Solidarité, non pas pour notre fonctionnement. Nous nous sommes engagés évidemment avec le Cotton Club. Cet argent va servir intégralement pour un projet de coopération. Alors, ce projet de coopération, et là, je laisserai la parole à Kamal, nous souhaitons que Montpellier se jumelle avec la ville de Tulkarem. Donc, on va trouver, avec nos amis de Tulkarem, comment utiliser cette somme pour un projet utile pour la population à Tulkarem. Voilà.
Kamal ?
Oui, comme le dit Robert, nous sommes en train de chercher à réaliser ce jumelage tant attendu entre Montpellier et une ville palestinienne. Je reviens un peu en arrière. Il y a 3 ans, quand la déléguée générale de la Palestine en France, Mme Hentrouri, a rendu visite à Montpellier, elle a été reçue par Mme le maire, Mme Andrew. Et ce jour-là, elle avait évoqué la nécessité d'un jumelage entre Montpellier et une ville en Palestine. Et lors des événements de Gaza, Madame le maire a proposé d'effectuer un jumelage entre Montpellier, un jumelage ou un rapprochement entre Montpellier et une ville de la Cisjordanie. Elle a précisé particulièrement à une ville en Cisjordanie. Et comme il y avait beaucoup de propositions pour Gaza, la mairie n'a pas voulu parler d'un jumelage avec une ville à Gaza. Et donc le choix en Cisjordanie a été fait sur la ville de Tulkarem, qui se trouve au nord de la Cisjordanie, juste à la limite de la frontière, de la ligne verte entre Israël et la Cisjordanie. Un projet a été remis à la mairie concernant ce jumelage, coopération. Et nous attendons toujours que ce projet soit concrétisé par un accord. Mais avant ça, il faudrait que nous cherchions aussi à concrétiser par une action sur le terrain. Et nous avons déjà invité quelques présidents d'associations d'agriculteurs de Tulkarem et de Naplouse à Montpellier, qui ont été reçus par la mairie et par le chef de cabinet de Mme le maire, et par l'Institut agronomique méditerranéen, qui est aussi partie prenante dans cette coopération. Et dernièrement, nous avons reçu un agriculteur aussi de Tulkarem, qui venait parler de réaction, la résistance non violente, contre le mur aussi. Mais ceci, surtout, c'est que nous puissions trouver un moyen d'aider les Palestiniens de Tulkarem dans les projets qui leur sont chers pour les réaliser, que ce soit dans le domaine médical, ou universitaire, ou agricole, ou d'autres sportifs éventuellement. C'est pour ça, peut-être, ces fonds qui sont récoltés par la soirée de Cotton Club sont dirigés vers un projet que nous allons élaborer avec nos amis et nos partenaires dans la ville de Tulkarem.
Voilà, donc juste pour rappeler que Hind Khoury, qui est donc la déléguée générale de la Palestine ici en France, est citoyenne d'honneur de la ville de Montpellier et elle a été donc décorée par Hélène Mondrou. Hein,
c'est exact,
La première dame de Montpellier, n'est-ce pas?
Oui. Et nous sommes un certain nombre à partir de Montpellier, plus généralement de la région, et une centaine en fait à partir au niveau de la France avec l'association France-Palestine Solidarité en Cisjordanie dans les 15 jours qui viennent. Et pour notre part, les amis de Montpellier, nous irons à Tulkarem, bien entendu, pour discuter sur place avec nos amis, après avoir discuté avec le comité de jumelage sur la manière d'utiliser les fonds qui, j'espère, seront importants. Et ce, grâce aux gens qui viendront nous aider en ce sens à cette soirée du dimanche 4 avril, donc.
Est-ce que vous avez une idée sur les besoins donc, des gens sur place, des agriculteurs sur place Kamal
Oui, les besoins sont nombreux. Je cite à titre d'exemple que pour les oliviers, par exemple, vous savez, les oliviers, si on ne les taille pas chaque année, et la récolte baisse. Donc ça donne une bonne récolte une année sur deux. Or, pour les Palestiniens, il faut des spécialistes de taille. Bien que les Palestiniens connaissent bien l'agriculture, mais depuis que ce mur qui a été construit par Israël a arraché des dizaines de milliers d'oliviers, les gens font très attention à leurs oliviers, surtout pour les conserver. Et ils n'ont pas beaucoup de spécialistes qui les aident à faire de la taille. Ça, c'est un point où on pourrait apporter de l'aide par l'envoi d'un expert pour la taille des oliviers, comme ça se fait actuellement dans les Alpes de Haute-Provence, où ils ont une coopération avec quelques villages autour de Toulkarem. Ils ont envoyé déjà un expert pour la taille des oliviers. Il y a aussi d'autres projets pour l'irrigation et pour aussi lutter contre la pollution de l'air à cause des industries chimiques que les Israéliens ont installées juste en face de Toulkarem et qui polluent l'air et qui donnent de nombreux cas de maladies signalés par les autorités sanitaires de Toulkarem, notamment des cas de cancer. Il faudrait qu'il y ait des moyens pour faire les analyses de cet air, si ça n'a pas été fait, transmettre ça aux autorités internationales aussi pour que ça soit connu.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale et nous n'avons pas donc le titre de Chab Sahraoui, mais nous allons passer donc un titre de son ex-complice et son ex-femme qui s'appelle Chabba Fadila et qui va nous interpréter un titre Madre Madre, ma mère, ma mère. Divergence FM 93.9, l'émission consacrée donc à la solidarité, la fête de solidarité avec la Palestine. Solidarité en musique et en slam qui se déroulera donc le dimanche 4 avril 2010 au Coton Club à partir de 22h avec des stars d'oreille, Chab Maria, donc d'origine marocaine et installée à Toulouse, Chab Sahraoui, donc franco-algérien, qui est donc installé, qui s'est installé en France,
oui,
après les événements donc tragiques donc d'Algérie, hein, il s'est réfugié donc en France. Et voilà, et Chab Sahraoui qui est considéré quand même comme l'un des artistes de raï les plus élégants. Hein. Mmh. Voilà, et c'est le premier artiste
à avoir fait de raï
avant
aux fait, États-Unis.
Voilà, aux États-Unis, aux avant même le grand Khaled ou, voilà, et Chab Mami.
Ça a été le premier à faire la tournée aux États-Unis, effectivement, et être très demandé. Hein.
Voilà.
Ouais, beaucoup de succès, et pour cause, et pour cause.
Pour cause, voilà. Donc, il sera le dimanche 4 avril au Coton Club. Et puis, il va y avoir du slam avec Myriam Bour,
oui,
qui est slameuse.
Qui est slameuse, effectivement, et que certains de vos auditeurs ont pu peut-être la voir lors de la soirée d'hommage à Mahmoud Darwish, où elle a dit certains poèmes de Darwish avec une sensibilité tout à fait extraordinaire. Hein. C'était très émouvant et magnifique. Malheureusement, je n'avais pas pu assister à cette soirée. J'étais en Palestine à cette époque. Mais tous les gens qui ont participé, ça leur a laissé un souvenir très, très chaud au cœur. Quoi, hein.
Nous l'avons déjà reçu donc, deux fois,
voilà,
donc, à Andalous. C'était l'année dernière dans le cadre de l'émission spéciale Mahmoud Darwish et spécial événement tragique de Gaza. Voilà. Alors, il y aura aussi d'autres, beaucoup de DJ. Alors,
voilà, on a eu beaucoup de DJ qui voulaient absolument participer à la soirée. Donc,
voilà,
ils ont insisté pour y participer, ce qui fait aussi très plaisir, évidemment. Donc, il y a tous ces DJ. Une information pour les auditeurs, le Cotton Club se trouve 129 avenue de Palavas, à côté du nouveau hôtel de Montpellier. C'est la sortie A9 près d'Arène. Voilà, donc ça démarrera le dimanche à 22h. Les militants de l'association France-Palestine seront là aussi pour accueillir et discuter avec les gens. S'ils souhaitent avoir des informations complémentaires sur les projets, il n'y aura pas que les militants de l'association, il y aura bien sûr Kamel et d'autres encore. Et tous ces gens seront là pour accueillir et pour discuter avec tous ceux qui veulent se renseigner sur ce qu'on veut faire, ce qu'on souhaite faire, éventuellement comment ils peuvent aider encore autrement. Bref, nous serons là pour créer une atmosphère de convivialité et de solidarité tranquille, mais la plus efficace possible avec ces gens que nous souhaiterions le plus nombreux possible.
Alors, on va quand même citer, comme tu as parlé, donc il y avait donc beaucoup de DJ qui ont sollicité donc la participation à cette manifestation. On citera DJ Mo, Ali H, DJ Mess, DJ Amida. Je pense que nos spécialistes ici à Divergence les connaissent, surtout notre grand spécialiste, donc Joe Romano, hein, notre DJ donc divergent de cœur. Alors, il y a aussi des artistes montpelliérains qui sont reconnus internationalement. Hein.
Tout à fait.
Rappelons Michel Mar, trompettiste, tubiste de jazz, et puis compositeur et réalisateur.
Et qui a fait des tournées à l'étranger déjà.
Et même des séjours à l'étranger.
Tout à
là,
fait.
J'allais dire en Afghanistan, en Turquie, en Amérique latine, et qui a donc joué avec donc de nombreux donc groupes
et qui est toujours content de participer à une soirée de solidarité, il faut le dire aussi.
Voilà, et Mahmoud Bari, qui est donc spécialiste plutôt dans un jazz un peu particulier, hein. C'est ce jazz avec ses touches à la fois méditerranéennes, orientales, ouvertes vers l'Amérique latine. Et nous allons donc demander donc à Elie, à la réalisation technique, de nous passer le titre de Mahmoud Bari, extrait de son album Tabarka. Et le titre, c'est Flying High. À vous. Thank you. Agence FM 93.9. Vous êtes à l'émission Andalous. Modesto Jamal au micro, Elie à la réalisation technique et avec nos invités, Dr Kamal Mahmoud et Robert Kissous. Alors, on va revenir donc sur... j'avais dit que la question palestinienne est plus ou moins donc sacrifiée par le monde politique. Ça, c'est à l'échelle donc internationale, que ce soit les gouvernants occidentaux européens, les États-Unis, hein, et c'est j'allais dire pseudo-régime donc du monde arabe comme l'Égypte et d'autres. Alors et puis. Abandonné aussi par les partis politiques en France. Il y a très peu de partis qui osent encore dénoncer cette colonisation. Hein. Citons quand même la LCR, qui n'y est plus maintenant, le nouveau parti donc anticapitaliste. Mais c'est surtout la société civile et les syndicats. Alors, que pense le syndicat donc des agriculteurs de l'introduction de ces produits agricoles israéliens qui sont produits donc dans des terres, dans des colonies, hein, donc des terres qui n'appartiennent pas aux Israéliens, qui appartiennent... Voilà.
Il y a plusieurs choses. D'une part, si vous voulez, c'est anti-écologique, à une époque où tout le monde parle d'écologie, de développement durable, de faire attention aux consommations d'énergie, au rejet de CO2, etc. C'est un côté complètement aberrant de faire venir des produits à plusieurs milliers de kilomètres qui pourraient être produits ici. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que ces colonies israéliennes exercent une concurrence déloyale parce qu'elles profitent de terres qui sont volées, pas payées, volées. De l'eau volée aussi. Puisque vous savez, dans la vallée du Jourdain, l'armée israélienne détruit les citernes d'eau des paysans palestiniens de sorte à ce que l'eau aille uniquement dans l'irrigation des colonies israéliennes. Donc là encore, c'est du vol, c'est du détournement du vol et de la destruction de la paysannerie palestinienne. C'est-à-dire donc, on se trouve confronté à une concurrence qui arrive, qui est complètement déloyale parce qu'elle se fait avec des ressources volées. Carrément volé. Et l'Union européenne vous parle toujours de concurrence non faussée, etc., etc. Mais là, en l'occurrence, ça ne l'est pas. C'est une concurrence complètement faussée. Puisque c'est le paysan en France, lui, il doit payer son eau, il doit payer la terre. Il la paye, toutes ces choses-là, il a payé, il a investi. Les autres, non, ils arrivent, ils prennent.
Voilà. Donc, avec les subventions de l'État d'Israël.
Avec en plus les subventions de l'État d'Israël. Parce qu'il faut savoir que tous les colons qui s'installent en Cisjordanie sont subventionnés, sont aidés. Y compris d'ailleurs dans Israël, il y a des gens qui se plaignent pourquoi les colons reçoivent tant d'argent et que nous on n'en reçoit pas. Et ça va à ce point-là. Il y a des subventions spécifiques qui sont prévues dans les programmes gouvernementaux économiques, que là, on n'a pas le temps de détailler, et tout particulièrement pour s'installer dans la vallée du Jourdain, c'est là que les subventions sont les plus fortes.
Robert, il y a donc certains journalistes, moi j'ai écouté quelques interventions de certains journalistes qui disent que parmi les produits donc, vendus par Agresco, il y a quelques produits palestiniens. Donc, quelque part, la société donc, israélienne, elle rend aussi service aux Palestiniens. Sinon, ils ne peuvent pas vendre leur...
Oui, il y a des produits palestiniens qui sont d'ailleurs mélangés avec des produits des colonies. Mais il y a une forme de cynisme d'empêcher les gens d'exporter, de travailler, de vivre normalement en les obligeant à passer... par les sociétés israéliennes, notamment Agresco, puisqu'ils ne peuvent pas exporter directement, et on les oblige à passer par eux, puis après on dit, voyez, on leur rend service. Mais non, on les oblige. Vous savez qu'un paysan palestinien, pour aller vendre ses produits, doit passer par des checkpoints, et les camions sont bloqués, les produits peuvent pourrir sur place, sont jetés, parce qu'il ne peut pas vendre, même dans la ville voisine. S'ils veulent, ils massacrent les produits purement et simplement en les laissant une demi-journée, une journée au soleil. Les produits maraîchers, à ce moment-là, ne valent plus grand-chose, ne sont pas vendables. Et donc, après, ils vous disent, ah ben oui, moi, je peux les exporter. Donc, c'est en quelque sorte y a un côté un peu, excusez du terme, mais un côté mafieux un peu, où on oblige les gens à passer par un certain circuit économique, sinon ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas vendre leurs produits. Donc il y a un côté d'un cynisme qui est quand même effarant, quoi. Hein. Voilà. Non, alors, ceci dit, ce n'est qu'une petite partie de ces produits qui est d'ailleurs non distinguable du reste. Et l'essentiel, c'est quand même des produits qui sont israéliens ou des colonies israéliennes de Cisjordanie. C'est, à Grexco, c'est quand même 70 à 80%. Ils exportent 70 à 80% de la production agricole des colonies israéliennes. C'est quand même énorme comme pourcentage.
Kamal ?
Et ceci dit, je voudrais ajouter quand même en ce qui concerne le rôle de la société civile dans la défense des intérêts des Palestiniens. La société civile, vu l'inaction de gouvernements, que ce soit arabes ou européens ou américains ou autres dans le monde des Nations Unies, doit jouer un rôle très important pour la défense des droits des Palestiniens sur leur terre. J'insiste là-dessus parce que ça fait maintenant 60 ans que la création d'Israël existe, et ça fait 60 ans que la Nakba palestinienne existe, avec l'expulsion des trois quarts des Palestiniens de leur terre vers des pays arabes voisins, 750 000 à 800 000 réfugiés palestiniens qui vivent dans les camps de réfugiés au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Cisjordanie et à Gaza même. Et le monde regarde avec indifférence. Or, nous ne pouvons plus compter sur les États de ce monde, ni sur les Nations Unies qui sont amorphes, ni sur l'Europe qui est inexistante politiquement parlant, ni sur les États-Unis qui ont été toujours un soutien indéfectible à Israël. Il reste quand même la société civile dans le monde, libre, dans le monde entier. Et nous cherchons à attirer l'attention de cette société civile sur le sort des Palestiniens, la vie infernale que font mener l'armée israélienne et les autorités israéliennes aux populations civiles en créant des barrages routiers, en multipliant les barrages routiers, en construisant un mur qui encercle les Palestiniens dans leur vie et dans leur terre, en séparant des villageois de leur terre, en confisquant les ressources en haut de toute la Palestine, en mettant un blocus total sur la bande de Gaza, où il y a plus d'1,5 million de Palestiniens qui sont bloqués depuis plusieurs années, coupés des moyens de vie de base, de moyens de construction pour au moins reconstruire ce que les Israéliens ont détruit pendant l'agression contre Gaza en début 2009. Donc nous cherchons à attirer l'attention de cette société civile pour qu'elle agisse, pour qu'elle réagisse, pour qu'elle crie haut et fort sur leur gouvernement, qu'elle fasse quelque chose pour les droits des Palestiniens.
Alors maintenant, je voudrais revenir sur la coopération. C'est-à-dire, vous allez faire une manifestation musicale, culturelle. Il va y avoir, j'espère, des fonds. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider, par exemple, l'agriculteur palestinien sur place ? Quelle piste
d'abord,
vous avez pour...
D'abord, il nous faut nous appuyer sur la solidarité des agriculteurs français aussi là-dedans. Et les agriculteurs d'Europe et du monde entier. Il y a 2 ans, nous avions reçu Raja Gopal, qui est président d'une association des paysans sans terre en Inde, et qui a donné un exemple dans sa lutte non violente pour acquérir la terre du gouvernement indien. Et nous avons reçu dernièrement le soutien des agriculteurs de l'Arzak, au comité de défense palestinien non violent, contre le mur en Cisjordanie et pour récupérer leurs terres. Et la coopération avec les Palestiniens, que ce soit à Tul Karem ou en Palestine en général, doit se concentrer sur des questions d'actualité pour le problème agricole. Mais c'est quoi l'agriculture ? L'agriculture, c'est la terre et c'est l'eau et c'est la commercialisation des produits agricoles. La main-d'œuvre aussi. Or, main-d'œuvre, on en a, la terre, elle est volée de plus en plus, tous les jours. L'eau, elle est confisquée par l'Israël, elle ne donne que 20% aux Palestiniens en Cisjordanie, et revend le reste, ou elle donne gratuitement aux colons, ou il prend une partie en Israël, ou il vend une partie aux Palestiniens au prix cher. Et il y a donc un problème de ce qui concerne les Palestiniens pour trouver des moyens de construire des citernes pour recueillir les eaux de pluie. C'est la seule source qui existe, puisque les Palestiniens n'ont pas le droit de creuser des forages en Cisjordanie. Ils n'ont pas le droit, il faut un permis de construire, de creuser un forage que les Israéliens nous donnent très rarement. Depuis 1967, pratiquement, il n'y avait pas que peut-être une dizaine de forages qui étaient faits. Et le reste, ça ne peut pas se faire, ils ne veulent pas autoriser les Palestiniens à creuser chez eux.
Donc, compte tenu, par exemple, que le conflit israélo-palestinien, c'est aussi un conflit d'eau, donc ça se justifie encore plus.
Et bien sûr, c'est un conflit de terre et d'eau. Israël, en construisant le mur autour de la Cisjordanie, d'ailleurs, on le constate, selon le tracé effectué par ce mur, il ne respecte pas la frontière de la ligne verte, c'est-à-dire la frontière internationale de la Cisjordanie vis-à-vis d'Israël, mais il mord souvent et beaucoup, profondément parfois, à l'intérieur de la Cisjordanie pour englober les colonies israéliennes en Cisjordanie et pour confisquer des terres palestiniennes assez fertiles et surtout pour mettre la main sur la nappe phréatique de la Cisjordanie qui est la plus forte et la plus importante en Palestine.
Robert, vous avez donc des dates. Bientôt, vous allez partir,
oui,
c'est ça?
Oui, nous sommes un certain nombre à partir de Montpellier et sur l'ensemble de la France, une centaine de personnes avec un voyage organisé par l'association France-Palestine Solidarité. Nous allons soutenir la 5e conférence internationale de Belaïn. Belaïn, c'est ce village symbole, mais il n'y a pas que lui, qui mène une lutte populaire non violente, une résistance populaire non violente contre les terres qui leur ont été volées par la construction du mur. Et maintenant, depuis un an, une coordination des villages qui luttent de la même manière a été mise en place. Et à cette conférence internationale de Belaïn sera annoncée, d'une manière plus médiatique, disant la création de ce réseau international de soutien. Vous savez que Desmond Tutu, Jimmy Carter sont allés dernièrement dans ce village pour rendre hommage à cette lutte des résistances populaires non violentes. Ils ne sont pas les seuls. De très nombreuses personnalités internationales y sont allées, y compris le patron dont le nom m'échappe, je crois que c'est Nick Branson, le patron de Virgin, et d'autres encore. Donc c'est vraiment un mouvement international extrêmement important maintenant qui est autour de ces villages en lutte. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'isolement d'Israël petit à petit se renforce et aidera à résoudre le problème. Parce que il faut que l'impunité d'Israël cesse. Donc comment on peut faire cesser cette impunité? Par des sanctions et aussi par la montée du soutien international à la résistance populaire non violente palestinienne. Eux, ils ont choisi cette solution non pas parce que c'est des doux, tendres, naïfs, mais tout simplement, ils ont tiré un certain nombre de leçons de l'histoire et ils ont choisi cette forme de lutte comme étant la plus efficace. Dernièrement, là, pour la fête de Pâques, ils sont passés de Bethléem pour aller vers Jérusalem. Et l'armée, ils ont forcé le checkpoint, si on peut dire. L'armée les a attrapés, les a bastonnés, etc., etc. Ils sont très courageux et ils méritent vraiment notre soutien le plus massif possible. Et donc, cette coordination est très importante. Il faut savoir que depuis qu'elle existe, les autorités israéliennes ont énormément renforcé la répression contre eux. Plusieurs de nos amis sont mis en prison de manière totalement arbitraire, encore plus que d'habitude, si je peux dire. Donc, il y a une vraie volonté des autorités israéliennes de détruire ce mouvement. Donc, nous, on a une vraie volonté de le soutenir et de le renforcer.
Il y avait des morts aussi.
Et des morts, tu as raison, absolument. Bassam Abou Rahmé, d'autres encore. Mais il y a eu encore deux morts dernièrement dans un village, deux jeunes de 16 et 19 ans, tués à balles réelles. Alors que l'armée israélienne prétendait ne pas utiliser les balles réelles, il est prouvé qu'ils ont utilisé des balles réelles pour les tuer.
Bon, alors on va faire une petite pause musicale et puis on va donc faire donc le mot de la fin. Alors le dernier titre, c'est toujours de Shabbat Maria et le titre est Dir Telfa. À vous.
Thank you.
Voilà, c'était donc Cheb Maria qui nous a interprété le titre « Ndir al-Falta », donc « Il a fait la faute ». Voilà, c'est une question de tromperie, voilà. Et voilà, donc une nana qui règle donc son compte à des à ces hommes volages, hein, comme il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, un dernier mot, hein, nous commençons par Robert.
Oui, alors je vous rappelle tous, le dimanche 4 avril au Cotton Club, 129 avenue de Palavas, à côté du nouveau hôtel de Montpellier et à côté de la sortie à 9 près d'Arène. Et on espère vous y voir le plus nombreux possible parce que les bénéfices des recettes d'entrée seront reversés à l'association France-Palestine Solidarité pour un projet de coopération en Palestine au profit des Palestiniens. Donc venez nombreux, ce sera à la fois un plaisir de vous rencontrer et vous aussi vous aurez plaisir à cette soirée.
Kamal ?
Et le 9 avril, vendredi 9 avril à 20h, à l'espace Martin Luther King, là, à la maison du Tiers-Monde, 27 boulevard Louis Blanc, une soirée à 20h, donc intitulée « Les Palestiniens ont-ils soif ?» Donc c'est une conférence, débat, qui va se dérouler sur les problèmes de l'eau en Palestine et la confiscation de ressources en eau par les Israéliens. Et il sera animé par plusieurs intervenants spécialisés et qui ont été en Palestine, organisés par Amnesty International et l'association France-Palestine Solidarité 34.
Et ben voilà, donc moi je vais juste faire une dernière annonce concernant donc le samedi 10 avril, donc c'est un peu loin, donc le dimanche et le dimanche 11 avril, le forum de la citoyenneté, hein, qui s'attaquera donc à l'économie solidaire et à l'emploi donc dans les quartiers populaires. Donc ces deux journées sont organisées à la Maison pour tous Georges Brassens dans les Hauts de la Payade. Alors merci donc pour votre
merci.
Merci à
voilà
vous.
Et donc et bonne chance, voilà.
Merci.
Alors quant à moi, je remercie d'abord Élie donc pour la réalisation technique. Alors Modesto Jamal vous passe donc un grand bonsoir et à la semaine prochaine. Au revoir.
Merci.